Terre sans femme, un film de Carmine Gallone, raconté par René Bizet. Tu ne reconnais pas cette femme-là ?
C'est Evelyn Parker.
Oui, elle a l'air triste. Elle a toujours l'air triste, Evelyn Parker. Elle vient de temps en temps à Melbourne faire ses achats. Puis elle retourne dans sa propriété près de Perth, où elle vit avec deux vieux domestiques, depuis la mort de son mari. Elle est riche, riche à millions. Parbleu, Parker a été un des premiers prospecteurs de la région de Carthage. Il y a fait une fortune. Mais à quel prix ? Tu veux savoir l'histoire ? C'est ma jeunesse que je vais te raconter. Il y a 40 ans de cela, Perth ne comptait pas 20 000 habitants. Autour, des petites agglomérations de baraques de bois. Plus loin, le désert. À Perth, il y avait des couples. Dans les villages, uniquement habité par des chercheurs d'or, rien que des hommes. Tu devines ce que ça donnait. Tous les prospecteurs se mouraient d'ennui, menaçaient de quitter la région. Bref, le gouvernement anglais eut pitié d'eux. Ils se rendirent compte que pour le bon état de ce coin de sa colonie, il fallait faire des sacrifices. Il demanda des femmes volontaires en Angleterre. Il s'en présenta 413. On les embarqua. On prit dans les environs de Perth 413 candidats au mariage. Il fut décidé qu'ils viendraient à l'arrivée du bateau, qu'on leur distribuerait des numéros correspondant à ceux des jeunes femmes, et que chaque paire de numéros ferait un couple. Le mariage devait avoir lieu sur le bateau pour éviter les retards, les querelles pour le choix et tous les ennuis qui accompagnent toujours les fiançailles. Bien. Tout se passa comme je viens de te le dire. Le numéro 1 masculin devint, après l'enregistrement civil et la bénédiction religieuse à bord, le mari du numéro 1 féminin, et ainsi de suite jusqu'au 412. Oui, parce que le 413 masculin n'eut pas de 413 féminin. Une des fiancées était morte subitement en route et avait été enterrée à Colombo. Tu vois d'ici la tête du 413, qui avait attendu 412 mariages dans l'impatience qu'on célèbre le sien et qui restait tout seul. C'était d'autant plus triste que ce 413 était Dick Ashton, un garçon un peu étrange, sentimental, rêveur, télégraphiste à Perth, et qui ne se consola pas de ce veuvage inattendu et forcé. Il habitait avec sa mère qui se réjouissait d'avoir une bru. Il n'osait pas rentrer chez lui par peur de lui faire de la peine et puis aussi, il se sentait un peu ridicule. Il alla boire dans un bar. Il se saoula. Oui. J'arrive à l'histoire d'Evelyn, mais il faut bien que je t'explique d'abord. Donc il se saoula et en compagnie du commissaire du bord du bateau qui avait amené les femmes. « Mon pauvre vieux, lui dit ce dernier au 10e whisky, mon pauvre vieux, vous n'avez pas de chance. On vous a volé votre femme, mais oui. Quand la fiancée est morte à Colombo, on a décidé de tirer au sort le numéro de celui qui ne se marierait pas. Sur les 413 candidats, on en a tiré le 68. C'était vous. Et pour qu'il n'y ait pas d'erreur, on vous a donné le numéro 413. Comme ça, on était sûr que tout se passerait régulièrement, puisqu'il n'y avait que 412 femmes. Vous comprenez ? Celle qui vous était destinée s'appelle Evelyn. Evelyn, je ne sais pas son nom de famille, mais elle a épousé Steve Parker. Ashton n'en écouta pas davantage. Tu vois la situation. Il aurait dû épouser la jeune fille qui était la femme de Parker, donc la femme de Parker était sa femme. Ça paraît assez logique. Ça devait lui paraître d'autant plus logique à ce pauvre Dick Ashton qu'Evelyn était charmante. Tu vois qu'elle a encore de très beaux yeux. Mais à l'époque dont je te parle, elle avait une peau délicieusement fraîche, une taille élégante, la plus jolie fille de tout le lot venue d'Angleterre. Parker était un beau garçon mais une brute. Il ne pensait qu'à faire fortune. Il habitait à Carthage pour être plus près du désert où il savait trouver de l'or. Il s'était associé avec un copain bowler pour exploiter un gisement. Il se souciait moins de sa femme que de sa pioche. La preuve, c'est que 3 jours après son mariage, il prévenait télégraphiquement son associé qu'il partait le lendemain pour le gisement, avec lui. Ashton, qui passait la dépêche puisque c'était son métier, apprit de cette façon-là qu'Evelyn était seule à Carthage. Alors tu imagines. Il prend le train à la gare de Perth, file au village, s'introduit je ne sais comment chez Madame Parker, se jette à ses genoux, lui dit ce qui s'est passé à bord du bateau, la substitution du numéro, régulière certes, mais tragique pour lui, et se laisse aller à toutes les déclarations de son cœur plein de tendresse et d'exaltation et de boniment. D'abord, Evelyne eut peur. Puis elle écouta son amoureux délirant, parce qu'elle n'aimait pas beaucoup Parker, qu'il avait abandonné après 3 jours de lune de miel amère, pour du sable aurifère. Ça se comprend. Mais comme elle se laissait conter des histoires par Dick, voilà des colons qui frappent à sa porte. Si Dick était pris chez elle, c'était le déshonneur pour tous les deux. Ashton, chevaleresque, lui ligote les mains, fait un cambriolage et se livre à la foule. Ah, on ne plaisantait pas dans ce temps-là, avec les voleurs ou avec les amoureux illégaux, si je puis dire. C'était la loi de Lynch, c'est-à-dire 100 hommes en fureur contre 1, les coups de pied, les coups de poing et au bout, la potence. Oui, tu n'as pas connu ça? Mais moi je garde d'horribles, d'ignobles souvenirs dans les yeux, dans les oreilles. Donc, tout le monde se jeta sur Dick. On le mit en croix sur une plaque tournante avant de le pendre. Le malheureux râlait à la mort quand le médecin de Carlidge, un Américain, intervint. On le respectait. Il dit que Ashton n'était pas responsable, qu'il était un peu fou, ce qui était vrai. En somme, il le délivra. Pourquoi? Ça n'est pas difficile à deviner. Parce qu'Evelyne lui avait demandé de le sauver, et qu'il était lui aussi amoureux d'Evelyne. Ah, bien sûr, ça lui faisait 2 amoureux, sans compter son mari. Mais que veux-tu? Il y avait 412 femmes pour 1000 prospecteurs. Ça explique bien des faiblesses. Evelyne oublia Dick, qui se soignait dans son bureau du télégraphe et qui essayait de ne plus penser, bainement, à la femme que Steve lui avait volée. Elle se donna au médecin discrètement, tendrement. Et le temps passait, il ne s'apercevait pas que Parker ne revenait plus. Car Parker était dans le désert depuis 2 semaines, et il n'avait pour lui et son associé que des provisions pour 15 jours. Et il fallait 4 jours de piste pour revenir à Carlidge. Il y avait du vilain près du gisement, c'était certain. Or, le 20e jour, quand tout le monde dans le village était dans l'angoisse, sauf Evelyn et son docteur, le télégraphe de Perth fut alerté. La ligne était brisée à 30 000 de là. À cette époque, les prospecteurs égarés dans le désert n'avaient pas d'autre moyen de faire savoir qu'ils étaient en détresse que de couper la ligne. Un tableau dans le poste du télégraphe de Perth indiquait l'endroit de la coupure. On envoyait une mission de secours qui, le plus souvent, arrivait trop tard pour ramener des vivants. Ashton était au télégraphe quand il apprit la nouvelle. Il était même seul, de service. Il comprit tout de suite que c'était Parker qui appelait à l'aide. Il lui en voulait tellement qu'il ne prévint personne. Il faisait un temps épouvantable. Il y avait une tempête de sable dans le désert, sans aucun doute. Le malheureux, je ne peux pas dire le misérable, se félicita que le destin réparât ses torts. Parker lui avait volé son Evelyne, Parker pouvait mourir. Tout rentrerait dans l'ordre. Mais il y a une justice malgré tout. Celui qui remplaça Dick au télégraphe, pour le service de jour, constata que la communication était coupée. Téléphona à Carlidge pour qu'on envoyât des hommes et des chevaux, là où devait agoniser Parker et son compagnon. Les sauveteurs furent sur place, à temps ou presque. Parker respirait encore. Son associé était mort. Dans son lit, Ashton avait la fièvre. Il chantait que Steve avait disparu et qu'il allait se rendre à Carlidge pour épouser Evelyn. Enfin, à Carlidge, Steve faisait une entrée triomphale, sur son chameau chargé de sacs de métal précieux, tout à la joie de sa richesse, plutôt qu'au bonheur de revoir sa femme. Evelyn, quand elle sut le retour de son mari, fit ses bagages pour fuir avec son médecin. Oui, mais, évidemment, il a eu tort, le docteur, de se loger 2 balles dans la tête. Mais c'était un honnête homme, il ne voulait pas prendre la femme du prochain. Evelyn revint donc chez elle, accueillit son mari avec des larmes, mais qui n'était pas pour lui. Et elle a vécu pendant 35 ans aux côtés de Steve, qui ne s'est jamais soucié de son épouse, mais qui a amassé des millions. Sa tranquillité cachait 2 morts, à Madame Parker, oui 2. Parce que Dick Ashton, le lendemain du retour de Steve, avait quitté son lit dans un accès de fièvre pour aller chercher sa femme à Carlidge. Il ne savait plus ce qu'il faisait. Il suivit la ligne de chemin de fer. On le trouva broyé sur les rails, à 2 000 de Perth. Non, ça n'est pas gai. Mais quand tu sors l'histoire d'une fortune faite gaiement, tu me la raconteras, mon vieux.
c'était « Terre sans femme », un film de Carmine Gallone raconté par René Bizet.